Vous écoutez, on lit pour vous.
Les animaux peuvent-ils apaiser notre sentiment de solitude? Les chercheurs en psychologie et en santé publique se penchent depuis quelques décennies sur les effets des animaux de compagnie sur le bien-être humain. L'isolement social est aujourd'hui reconnu comme un facteur de risque associé à une augmentation de la dépression et de l'anxiété, et de nombreuses études concluent que la présence d'un animal peut atténuer les effets négatifs de la solitude, surtout chez les personnes vivant seules ou celles souffrant d'un trouble anxieux. Il s'agit donc d'une option intéressante pour les quelques 14% de Québécois qui disent ressentir toujours ou souvent un sentiment de solitude. Selon l'Institut de la statistique du Québec de 2022, les deux groupes les plus touchés étant les plus jeunes, de 15 à 29 ans, et les plus âgés, 75 ans et plus. Les chiens et les chats en particulier procurent un sentiment de présence constante, une impression de réciprocité affective et une routine structurante. Promener un chien, par exemple, favorise les interactions sociales et augmente l'activité physique, en plus de donner une structure et un but à la journée. Pour certaines personnes, cela peut suffire à améliorer considérablement la qualité de vie, car la solitude ne se résume pas à l'insuffisance de contacts humains. Elle inclut également le sentiment subjectif d'être seul, incompris ou sans soutien émotionnel. Dans ce contexte, un chien qui vous accueille en remuant la queue ou un chat qui vient se blottir contre vous peut parfois avoir un effet positif. Cependant, les études soulignent aussi des limites importantes. Le bénéfice psychologique est très variable. Il dépend de la personnalité du propriétaire, de ses attentes, de sa capacité à s'occuper de l'animal, de son environnement, de l'état de santé de l'animal et de la qualité de la relation. Une adoption mal préparée peut entraîner du stress, de la culpabilité, voire un isolement accru en cas de problème de comportement, de budget insuffisant pour couvrir les coûts vétérinaires ou de contraintes de logement. Des études menées auprès de propriétaires d'animaux pendant la pandémie ont même révélé un paradoxe. Ces derniers n'avaient pas une meilleure santé mentale que les personnes sans animaux. Dans certaines études, avoir des animaux de compagnie était même associé à un moins grand bien-être. Il faut être prudent dans l'interprétation. Cette association statistique n'est pas forcément une relation de cause à effet. Pour avoir un portrait exact de la situation, il faudrait faire un suivi pendant des années auprès de personnes avec et sans animaux et tenir compte de plusieurs facteurs, par exemple, savoir comment se portaient les propriétaires d'animaux avant l'adoption. D'autres études sont donc nécessaires pour mieux comprendre le phénomène. Chose certaine, les animaux ne sont ni des outils thérapeutiques, ni des solutions miracles à la solitude. Ce sont des êtres sensibles, avec leur propre personnalité, leurs besoins, leurs limites. La relation avec eux peut être profondément bénéfique, mais elle n'est ni automatique, ni garantie. Quand l'animal devient l'enfant. Dans plusieurs sociétés occidentales, on observe un phénomène fascinant. Les chiens sont de plus en plus considérés comme des membres à part entière de la famille, parfois même comme des enfants de substitution. C'est particulièrement le cas dans les pays aux prises avec une baisse du taux de natalité, des réseaux familiaux réduits et une urbanisation croissante. Une revue théorique récente explore cette tendance du « dog parenting ». Les chiens ont divers traits morphologiques et comportementaux, grosse tête, grands yeux, comportement d'attachement, qui évoquent les nourrissons humains. Cela facilite l'émergence d'une relation d'attachement de type parental envers l'animal. Certains propriétaires souhaitent combler un vide affectif. D'autres choisissent consciemment d'avoir un chien plutôt qu'un enfant. Certains combinent les deux. Dans tous les cas, cela révèle un besoin universel d'attachement, parfois redirigé vers des espèces non humaines. Adopter un animal ou pas? Comme décider d'avoir un enfant, adopter un animal est un engagement à long terme, un chien ou un chat peut vivre de 10 à 20 ans. Il vieillit, tombe malade, demande des soins, de l'attention, du temps. Trop d'adoptions impulsives se soldent par des retours ou des abandons pour toutes sortes de raisons. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas envisager l'adoption, mais il faut choisir le moment opportun, l'animal qui nous convient, et être prêt à assumer les bons et les moins bons côtés. Pour les personnes qui ne peuvent se tourner vers l'adoption, il existe d'autres façons de créer une relation. Être bénévole dans un refuge, devenir famille d'accueil temporaire, garder les animaux des amis et de la famille, etc. Ces formules permettent de goûter aux bienfaits du lien humain-animal sans les contraintes permanentes. Et en ce qui concerne l'adoption, il faut se rappeler que la relation et l'attachement se construisent dans le quotidien et transforment certains aspects de nos vies, parfois pour le meilleur, parfois de manière exigeante. Bien réfléchir avant de s'engager, c'est le premier acte de respect envers l'animal et envers soi-même. C'était « Les animaux peuvent-ils apaiser notre sentiment de solitude ?» un texte de Caroline Kilsdonk, paru le 2 décembre 2025 dans le magazine L'Actualité.
Chahar, ingénieur, un texte d'Aline Vancompernol, paru dans l'édition Hiver 2025, numéro 165, de la revue Paraquad. Atteinte du spina bifida, Afsa Chahar occupe à 61 ans un poste à responsabilité. Elle est ingénieure, chargée de projet à Atkins Realis. Une fonction qu'elle occupe avec le leadership, la compétence, la détermination et la persévérance qui la caractérisent. Elle est aussi ambassadrice de l'Ordre des ingénieurs du Québec et œuvre dans les écoles pour encourager les filles à se lancer dans l'ingénierie. Ayant le spina bifida depuis la naissance, Afsa a eu à faire face à de nombreux défis dès son plus jeune âge. Alors que son corps ne répondait pas toujours, ses parents se sont attachés à stimuler son intellect en lui donnant des jeux. Casse-tête, Scrabble, Monopoly. L'ingénieure est née et a passé sa jeunesse au Liban. Elle a étudié et débuté sa carrière à Beyrouth. Douée comme elle était intellectuellement, elle a très bien réussi dans ses études. Et quand il a fallu choisir à la fin du secondaire quelle serait la suite, elle avait deux choix, médecine ou génie. Citation « Mes parents m'ont encouragée à étudier en génie » car les études étaient plus courtes et je pouvais débuter ma carrière plus vite. J'ai bien aimé ça. » Fin de citation, décrit-elle. Après sa graduation, Afsa a travaillé au Liban pendant 10 ans avant de venir s'installer avec sa famille au Québec en 1995. Selon Afsa, qui parle d'expérience, dans son métier, il faut avoir du leadership, il faut savoir bien expliquer, être compétente, prendre en charge la situation et prouver qu'une femme est capable de faire la même chose qu'un homme. Et encore aujourd'hui, dans ses divers emplois dans la province et depuis 6 ans œuvrant chez Atkins Realis, Afsa doit sans cesse se prouver. Chaque fois qu'elle change de projet, chaque fois qu'elle a un nouveau client, elle doit se prouver. Citation « J'ai une double contrainte, une triple contrainte même. Je suis une femme, immigrante, en situation de handicap. » Fin de citation. Le but premier d'Afsa est de rester en bonne santé pour pouvoir prendre soin des gens qui l'entourent et continuer à exercer son métier qu'elle aime passionnément. Elle s'y sent bien et reçoit de l'appréciation. Et finalement, c'est ça qui compte. Citation. L'important, ce n'est pas le titre, c'est d'être bien entouré et apprécié. Fin de citation. C'était Afsa Chahar, ingénieur. Un texte d'Aline Vancompernol, paru dans l'édition Hiver 2025, numéro 165, de la revue Paraquad.
Québec se dote d'un plan pour mieux détecter l'Alzheimer et accompagner ceux qui en souffrent, un texte de Florence Morin-Martel, publié le 1er décembre 2025 dans Le Devoir. Québec a dévoilé lundi son tout premier plan d'action sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs. D'ici 2030, le gouvernement souhaite que la première ligne dispose de davantage d'équipes spécialisées capables de détecter la maladie et d'accompagner plus efficacement les personnes qui en sont atteintes. La première ligne comprend les CLSC, les groupes de médecine de famille, GMF, les divers cabinets médicaux et les cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées. Les équipes spécialisées en question réuniront un médecin, des infirmières et des travailleuses sociales. Le but est que ces équipes soient accessibles autant si l'on demeure près d'un grand centre que si l'on est dans une région un peu plus éloignée, souligne la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Sonia Bélanger, en entrevue exclusive avec Le Devoir. Lundi, son cabinet a précisé qu'il n'était pas encore possible de dire combien d'équipes seraient ajoutées au total. Le plan d'action, qui découle de la politique québécoise sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs dévoilé en février dernier, est accompagné d'une enveloppe de 23,6 millions de dollars sur 5 ans, dont 8 millions pour cette année. Essentiellement, cet argent servira à ajouter du personnel en première ligne, précise la ministre. Sonia Bélanger reconnaît toutefois que ces milieux manquent déjà d'effectifs. On y va graduellement. On ne peut pas arrêter d'améliorer le système parce qu'il manque du monde, dit-elle. Ces nouvelles équipes auront notamment pour mandat de dépister plus tôt la maladie d'Alzheimer en GMF et en CLSC. Elles guideront aussi les patients et leurs proches dans un réseau de santé où ils se sentent souvent abandonnés, affirme la ministre. Le plan prévoit aussi que chaque personne qui reçoit un diagnostic pourra planifier son parcours de vie avec la maladie. En ce moment, ce genre de service est dispensé de façon très inégale, note Mme Bélanger. Des travailleuses sociales en première ligne offriront ainsi du soutien pour faire face au choc du diagnostic et aider les gens à repérer ce qui leur fait du bien au quotidien. Des médecins et des infirmières praticiennes aideront à consigner leurs souhaits de soins pour chacune des étapes. Et lorsque la situation dépassera ce que peuvent offrir les GMF ou les CLSC, Québec veut garantir un accès plus rapide aux services spécialisés. Le but, c'est de ne plus attendre un mois, un an ou deux ans, soutient-elle. Au total, 150 000 Québécois vivent aujourd'hui avec la maladie d'Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif. Moins de nouveaux cas. La prévention est l'un des axes centraux du plan, soutient Sonia Bélanger. Ce qu'on veut, c'est réduire le nombre de nouveaux cas, dit-elle, en soulignant que la cible demeure cependant difficile à quantifier. La prévention est un objectif réaliste et atteignable, assure au Devoir le Dr Howard Bergman, qui a dirigé la rédaction de la politique québécoise sur la maladie dévoilée en février. Dans les pays à haut revenu, le nombre de nouveaux cas d'Alzheimer a chuté d'environ 25% en 20 ans, affirme-t-il. Cette baisse s'explique notamment par un meilleur dépistage et le traitement de maladies comme l'hypertension et le diabète, par le recul du tabagisme, ainsi que par l'amélioration générale du niveau de vie et de scolarité. Le Dr Bergman rappelle que plusieurs gestes de prévention peuvent être adoptés, comme bouger davantage et améliorer son alimentation. Mais il insiste sur l'importance de rejoindre les personnes les plus à risque, entre autres celles ayant un faible niveau de scolarité et vivant dans des quartiers vulnérables. Pour soutenir cet effort, le plan d'action prévoit la création d'un répertoire de ressources et d'outils sur la santé cognitive et la prévention. La population pourra notamment y accéder au moyen de la nouvelle application Ma Santé, qui doit être lancée sous peu. La plateforme inclura toutefois des contenus plus larges que la maladie d'Alzheimer. La ministre Bélanger estime que le plan d'action est porteur d'espoir et de dignité. Je pense qu'on va dans la bonne direction. C'était « Québec se dote d'un plan pour mieux détecter l'Alzheimer et accompagner ceux qui en souffrent », un texte de Florence Morin-Martel, publié le 1er décembre 2025 dans Le Devoir.
Cessons au moins de chauffer le dehors. Un texte de Boucar Diouf, paru le 15 novembre 2025 dans la presse. C'est fou combien perdre l'électricité, surtout en hiver, est anxiogène. Pendant près de 24 heures, comme des centaines de milliers de Québécois, nous avons encore perdu le courant. Je dis bien « encore », car le phénomène est de plus en plus fréquent. Lorsque nous avons enfin vu jaillir la lumière, c'est comme si le paradis s'était invité dans notre bungalow. Évidemment, le froid est un facteur explicatif majeur de cette anxiété. Cependant, même en plein été, perdre le courant nous stresse, car nous ne savons plus comment vivre sans cette facilité. Je parle ici d'une grande majorité des Québécois, car il reste encore une minorité de survivalistes capables de se passer d'Hydro-Québec. Cette dépendance au confort est universelle. J'ai grandi dans une famille de paysans sans eau courante ni électricité. Jusqu'à l'âge de 20 ans, entre l'agriculture vivrière et la vie de berger, j'ai parcouru la savane, écouté les oiseaux et laissé la nature cultiver le biologiste que je suis devenue. On buvait l'eau des mares, on chassait le petit gibier avec nos chiens et on récoltait du miel et des fruits sauvages. Malgré cet historique de simplicité involontaire, aujourd'hui, même en plein été, perdre l'électricité me fait sécréter des hormones de stress. J'ai été rattrapée par ce que ma mère appelait le pouvoir anesthésiant du confort. Pour que maman puisse vieillir plus confortablement avec papa, nous avions construit, il y a quelques années, un bâtiment moderne avec l'eau, l'électricité, l'air climatisé et des toilettes attenantes aux chambres. Son quotidien allait ainsi être plus agréable, pensait-on. Une fois le bâtiment équipé, maman nous a avoué qu'elle ne tenait pas à y emménager, qu'elle était très bien dans sa vieille chambre. Bref, elle déclinait notre offre. Avec une pertinence digne des grands penseurs, maman a argué pour justifier sa décision. « Boucard, n'as-tu pas remarqué que le confort nous isole et qu'il nuit à nos chances d'être plus facilement contentés dans la vie? Regarde-toi, mon fils. Tu as grandi dans cette famille où nous buvons l'eau des puits depuis toujours, où nous nous asseyons correctement sur les nattes et où quelques piqûres de moustiques ou le son des tambours ne nous empêchent pas de dormir. Depuis que tu vis au Canada, toutes ces choses qui jadis te simplifiaient la vie sont devenues des désagréments pour toi. » Si je m'installe dans cette chambre moderne et que je m'habitue à dormir avec l'air climatisé, je ne pourrai plus revenir en arrière. Et qu'arrivera-t-il quand ce climatiseur tombera en panne? Tu le sais, mon fils, que les pannes d'électricité sont légion dans la région. Je ne veux pas changer de vie à 75 ans. Je vais donc continuer à habiter ma modeste chambre et à faire ma sieste sous l'arbre à palabre étendu sur ma natte. Vous pouvez garder cet appartement pour vous, les enfants. Quand vous viendrez nous voir, ce bâtiment sera le vôtre. Surtout pour toi, Boucard, qui réapprends à vivre comme nous après avoir passé plus de la moitié de ta vie au Québec. Si très souvent les riches de ce monde ne fréquentent que leurs semblables, c'est parce qu'ils savent ces gens capables de leur offrir le niveau de confort auquel ils sont habitués. Quand on a connu ce que nous considérons comme un progrès, retourner en arrière est rarement possible. Personne n'est à l'abri de cette part d'humanité qui sommeille en chacun de nous, dit la mère de Boucard Diouf. Ce pouvoir anesthésiant dont parlait ma mère est au cœur de notre rapport à l'énergie au Québec. On n'a pas besoin d'être un spécialiste pour constater cette tendance à une augmentation du nombre de pannes dans le réseau d'hydro. Avec autant de lignes, de poteaux, de transformateurs aériens à sécuriser, ces coupures accidentelles d'électricité risquent d'être de plus en plus fréquentes en ces temps de tribulation climatique. Régulièrement, les arbres, le vent, le verglas et la glace nous rappellent que notre réseau est vulnérable. La fréquence et la durée moyenne des pannes ont augmenté au Québec. Un rapport du Vérificateur général du Québec, VGQ, publié en décembre 2022, soulignait déjà ces lacunes dans la gestion des actifs du réseau d'Hydro-Québec. La même année, Hydro a publié sa stratégie d'adaptation au changement climatique intitulée « Plan d'action 2035 ». On y apprend qu'il faudra décaisser entre 45 et 50 milliards pour atteindre cet objectif de réduction de 35 % des problèmes d'ici 2035. On parle beaucoup de la nécessité d'enfouir les fils, mais qui paiera pour les sommes astronomiques nécessaires à ce chantier titanesque si le confort nous empêche aussi d'envisager la moindre hausse de tarifs? Il faudra inéluctablement parler du prix du kilowattheure et du gaspillage pour le particulier comme pour les industries. Au Québec, étant donné que le sujet se répercute très vite dans les sondages, tous les politiciens l'évitent comme la peste. Je suis de ceux qui croient que Pierre Fitzgibbon avait raison de remettre la sobriété énergétique au centre des conversions sérieuses que nous devons avoir. Baisser le chauffage durant la nuit et faire fonctionner le lave-vaisselle à des heures moins coûteuses sont effectivement des gestes qui font partie de la solution. M. Fitzgibbon préférait encourager la sobriété par des incitations, mais l'humain étant ce qu'il est, la pénalité devrait aussi être envisagée. Il faudra collectivement bousculer un peu notre confort et chasser cette impression de surabondance d'eau et d'électricité qui est profondément ancrée dans notre imaginaire collectif. L'idée ici n'est pas de pénaliser les plus vulnérables, mais de faire payer ceux qui abusent. Pensez aux gens qui, parce qu'ils ont de l'argent, investissent entre 10 000 et 25 000 $ pour chauffer leur entrée extérieure. Objectif? Faire fondre la neige pour ne pas pelleter. Ce n'est pas parce qu'on est capable de payer 2 000 $ d'électricité de plus par année, au lieu d'installer un abri tempo, que cette nouvelle pratique énergivore devrait être normalisée. Un abri d'auto-temporaire, ce n'est pas beau, mais endurer cet inconfort visuel est plus écolo et responsable que chauffer son entrée. Une importante surtaxe sur l'électricité gaspillée de la sorte pourrait freiner l'expansion de ce gaspillage. Si l'on veut promouvoir la sobriété énergétique, il faudra décourager les habitudes de surconsommation. Ce qui est valable pour l'électricité l'est tout autant pour l'eau. Malgré la fausse impression de surabondance qui nous habite, ces deux ressources sont loin d'être infinies. C'était « Cessons au moins de chauffer le dehors », un texte de Boucard Diouf, paru le 15 novembre 2025 dans la presse.
Un service de déménagement pour victimes de violences conjugales mis sur pause depuis des mois. Un texte de Jessica Nadeau paru le 25 novembre 2025 dans Le Devoir. Faute de financement, un organisme qui aide les femmes victimes de violences conjugales à déménager de façon sécuritaire a dû interrompre ses services depuis juin, laissant des centaines de femmes en plan. Ça met en danger la vie des femmes et des enfants, déplore Anne-Nathalie Jean-Charles, directrice de Transit Secours Québec. On reçoit encore de nombreuses demandes chaque semaine. On est obligé de leur dire qu'on ne peut pas les aider. Ça me déchire le cœur, confie-t-elle. Il y a quelques années, Geneviève Caumartin a découvert l'existence de Transit Secours, un organisme canadien qui aide les femmes à quitter leur agresseur de façon sécuritaire. Ayant elle-même perdu sa mère aux mains d'un conjoint violent, elle a eu envie de travailler avec cette équipe pour offrir le service au Québec. « Ma mère avait très peur de partir », raconte la fondatrice de la branche québécoise. « Je me disais que si elle avait eu de l'aide pour déménager, c'est quelque chose qui aurait pu lui sauver la vie. » C'est ainsi que, de 2020 à juin 2025, Transit Secours offrait ce service unique au Québec, desservant la grande région de Montréal. L'organisme assure toute la logistique du déménagement, retournant sur les lieux avec une équipe de bénévoles, des policiers et des agents de sécurité une fois que la femme est en sécurité dans une maison d'hébergement. Il offre également un service d'entreposage gratuit afin qu'elles ne repartent pas à zéro lorsqu'elles sont prêtes à retourner vivre dans un nouveau logis. Manque de financement. Depuis ses débuts, l'organisme ne suffit pas à la demande, démontrant, selon Anne-Nathalie Jean-Charles, la pertinence du service. On desservait, au niveau de la nouvelle clientèle, entre 18 et 26 nouveaux déménagements par mois, soit 4 à 5 déménagements par semaine. Mais on avait facilement entre 30 et 40 demandes par mois. Donc, même en étant à pleine capacité de nos moyens à l'époque, on n'arrivait pas à répondre à la demande. La directrice parle à l'imparfait parce que, depuis le mois de juin, elle n'est plus en mesure de répondre aux nouvelles demandes. L'organisme arrive à peine à payer les frais de charge afin de maintenir les services offerts à la quarantaine de femmes dont les biens sont encore entreposés. Le problème, c'est que l'organisme n'a plus d'argent, explique Mme Jean-Charles. Depuis le début de l'année 2025, on reçoit beaucoup moins de dons et ça a vraiment périclité au printemps. On a décidé de réduire nos services. On n'était plus en mesure de payer nos employés pour assurer le service régulier. Aujourd'hui, la branche québécoise de l'organisme n'a plus aucun employé et la directrice travaille désormais bénévolement. Mais Mme Jean-Charles ne chôme pas, tentant de convaincre les élus de financer ses services pour garantir la reprise des opérations. Elle a aussi modifié la structure de l'organisme, s'affranchissant de la structure canadienne qui tenait les cordons de la bourse et prenait les décisions pour devenir autonome et avoir les coups des franches sous le nom de Transit Secours Québec. Anne-Nathalie Jean-Charles espère ainsi trouver une façon de rétablir le service dans les prochains mois et rêve même de l'étendre à l'ensemble du Québec. Mais d'ici là, les victimes sont privées d'une ressource essentielle, déplore la fondatrice Geneviève Comartin. L'impact, c'est que, malheureusement, certaines femmes n'auront pas d'option, dénonce-t-elle. Elles vont peut-être décider de ne pas partir ou elles vont partir et elles vont tout perdre. C'est une injustice. C'était un service de déménagement pour victimes de violences conjugales mis sur pause depuis des mois, un texte de Jessica Nadeau, paru le 25 novembre 2025 dans Le Devoir.